Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Il y a 20 ans, au petit matin du 17 juillet 1998, les États de ce monde adoptaient le statut des Roms par un vote majoritaire de 120 contre 7 et 21 abstentions. 20 ans après, quel bilan dresser de cette lutte contre l'impunité par la CPI? Est-ce que les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide et aujourd'hui crimes d'agression sont sévèrement punis comme le prévoit le statut des Roms? Quels sont les progrès et les limites de la CPI et par ricochet du statut des Roms créant cette cour? Et quel est son avenir? Voilà la problématique qu'aborde Droit et Citoyenneté avec le chargé de la sensibilisation à l'unité de la CPI à Kinshasa, Patrick Tshibouyi, pour décrypter ensemble divers messages livrés à l'occasion de la célébration de 20 ans du statut des Roms à Kinshasa. Cette émission est coordonnée et présentée par Jeff Ngoyi Mulonda sous la supervision de Jean-Marc Matuaki Mofelele. Merci d'être là avec nous. Bienvenue dans votre magazine Droit et Citoyenneté qui évoque aujourd'hui le bilan des 20 ans du statut des Roms créant la CPI et ses perspectives. Avant d'aller plus loin, suivons Tina Salama qui nous fait le récit de la conférence de haut niveau organisée par la CPI.
Le vote historique de 120 États envoyait un signal fort. Le monde alors montrait qu'il était déterminé à mettre un terme à l'impunité pour les crimes les plus sérieux avec la création d'une juridiction universelle permanente, la Cour pénale internationale. Cette lutte universelle n'avait jamais été menée comme auparavant, malgré quelques tentatives, certains tribunaux pénaux au lendemain de la Première Guerre mondiale. Dans le cadre de la célébration de ses 20 ans du statut de Rome, mercredi 5, la branche de la CPI à Kinshasa a organisé au ministère des Affaires étrangères une conférence dite de haut niveau au cours de laquelle plusieurs exposés, notamment ceux du juge congolais à la CPI, Antoine Mindoua, de son point focal en RDC, Luzolo Bambi, ont été développés en termes de bilan de ces 20 années de la justice pénale internationale ainsi que ses perspectives d'avenir.
Radio Okapi.
Droit
et citoyenneté.
Lors de cette conférence, Antoine Mindoua, juge à la Cour pénale internationale, a dressé le bilan des 20 ans du statut des Roms et ses perspectives en précisant que ce statut est entré en vigueur grâce à la RDC.
Le statut de Rome est entré en vigueur le 1er juillet 2002 à la suite de 60 ratifications conformément à l'article 126 alinéa 1er du statut. En effet, vous le savez, je vais donner lecture de cet alinéa. Le présent statut entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant le 60e jour après la date du dépôt du 60e instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Dans ce cas précis, vous le savez, la République démocratique du Congo, notre pays, a, après avoir ratifié son instrument d'adhésion, a déposé son instrument de ratification, le 11 avril 2002. Alors, si nous faisons le calcul, le premier jour du mois qui suit 60 jours après le 11 avril 2002, nous avons le 11 mai, 30 jours, le 11 juin, 60 jours, et puis le premier jour, c'est le 1er juillet. Non, le 1er juillet 2002, le statut est entré en vigueur grâce à la RDC. Alors, notons que non seulement la CPI nous doit l'entrée en vigueur, mais aussi la RDC a été le premier pays à commencer à coopérer réellement avec la Cour, notamment par le transfert des accusés et par l'envoi de témoins à la haie. Ce soutien à la justice criminelle internationale honore notre pays et il est vraiment apprécié.
Du fantasme du statut des Roms à une Cour réellement fonctionnelle, le juge à la CPI livre quelques données chiffrées dans le couronnement de ses bilans.
En 2017, la Cour s'est vue dotée d'un budget de 147 millions d'euros. Ce chiffre, pris isolément, peut paraître élevé. En réalité, il n'en est rien. Il est même dérisoire au vu de toutes les activités que la Cour doit entreprendre. Les charges portées contre trois personnes ont été abandonnées suite à leur décès. Les juges de la CPI ont également délivré 9 citations à comparaître qui ont été respectées. Les juges ont rendu 6 verdicts, 8 condamnations et 2 acquittements. La première affaire conclue par la Cour a été celle à l'encontre de Thomas Lubanga le 14 mars 2012.
Le juge Mindoua fait le bilan de la situation en cours.
À ce jour, la Cour a été saisie de 26 affaires. dont certaines comportaient plus d'un suspect ou accusé. Les juges de la CPI ont délivré 32 mandats d'arrêt et grâce à la coopération des États, 9 personnes ont été détenues au quartier pénitentiaire de la CPI et ont comparu devant la cour. 15 personnes sont toujours en liberté, dont le président Al-Bashir du Soudan.
L'actualité en profondeur sur Radio Capice et dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Vous suivez le magazine Droit et Citoyenneté qui se penche sur les 20 ans du statut des Roms, bilan et perspectives. Nous recevons Patrick Tshibouyi, chargé de sensibilisation à l'unité de la CPI en RDC.
Radio Okapi.
Droit
et Citoyenneté.
Certains observateurs pensent que la CPI elle est biaisée en Afrique. La plupart des affaires à la CPI sont africaines. Parce qu'on s'interroge souvent sur cette situation biaisée à la CPI en Afrique. Patrick Tshibouyi, dites-nous, comment les affaires sont portées devant la CPI?
Alors, les affaires sont portées de trois manières. Déjà, dans le discours du juge, en relevant justement cette critique qui est souvent formulée contre la Cour, le juge lui-même a relevé dans son discours un des moyens par lequel la majorité des affaires concernant les États africains ont été portées à la Cour. Ce moyen, c'est que ce sont ces États eux-mêmes qui ont déféré les situations les concernant la Cour pénale internationale. C'est le cas de la RDC, il cite même certains de ces pays, ces États partis africains eux-mêmes qui ont déféré la situation à la Cour. C'est le cas de la RDC, c'est le cas de l'Ouganda, c'est le cas de la République centrafricaine. Donc déjà, pour le juge, dire que la Cour serait focalisée que sur le continent africain, pour les juges, cet argument ne tient pas parce qu'il relève là que ce sont des États partis africains eux-mêmes pour une grande partie qui ont défrayé les situations. Et ça, c'est le premier moyen par lequel une affaire est portée devant la Cour, c'est-à-dire un État parti qui va déférer, renvoyer la situation au procureur de la Cour pénale internationale. La deuxième possibilité, c'est que le procureur peut ouvrir des enquêtes de sa propre initiative. Mais si le procureur veut ouvrir des enquêtes de sa propre initiative, il doit recevoir au préalable l'autorisation des juges de la chambre préliminaire. Le troisième moyen, c'est que c'est le Conseil de sécurité qui peut déférer les situations en s'appuyant sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Donc ce sont les trois seuls moyens par lesquels une affaire peut être portée devant la Cour pénale internationale.
Un des recherchés de la CPI n'est toujours pas arrêté, toujours en liberté, en l'occurrence le président soudanais Al-Bashir. Votre commentaire?
Oui, le juge a voulu, en faisant ressortir ces éléments chiffrés, montrer que la Cour pénale internationale est devenue une institution judiciaire pleinement opérationnelle, pleinement fonctionnelle, où il y a eu des décisions, des verdicts de culpabilité qui ont été rendus, des verdicts d'acquittement qui ont été rendus, plusieurs affaires qui ont été ouvertes, montrant ainsi qu'il y a un dynamisme judiciaire qui s'est mis en place au sein de la Cour pénale internationale.
Sur 26 affaires portées devant la CPI, il n'y a que 3 ou moins qui ont connu un jugement. Est-ce que ce n'est pas un bilan assez mince?
Non, il faut relever que le travail de la Cour pénale internationale est un travail immense. Vous avez plusieurs situations qui sont présentées, déférées devant la Cour pénale internationale, qui ont fait l'objet de plusieurs affaires. Et le juge, d'ailleurs, a relevé que dans beaucoup d'affaires, et il a même fait ressortir ça comme étant des défis majeurs dans le travail de la Cour, c'est que vous avez également beaucoup de personnes faisant l'objet de mandats d'arrêt qui ne sont pas encore arrêtées. Et ça, c'est un défi majeur pour la Cour pénale internationale que la non-exécution des mandats d'arrêt délivrés par la Cour pénale internationale. Et dans son discours, le juge a voulu relever cela, cette réalité, et également relever que oui, c'est vrai, nous sommes totalement opérationnels, mais oui, également, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de personnes qui font l'objet des poursuites devant la Cour pénale internationale qui ne sont pas encore arrêtées.
Radio Okapi.
Le professeur Barouani Saleh, doyen de la faculté des droits de l'université protestante au Congo, nous fait aussi le bilan sur l'application du statut des Roms en droit congolais.
En ce qui concerne l'application du statut des Roms en droit congolais, 20 ans après son adoption, il est question de mesurer et d'apprécier l'étendue de son acception en République démocratique du Congo à travers la production normative dans le sens de la mise en œuvre de ces traités et à travers la pratique judiciaire. Le constat qui apparaît est que l'application du statut des Roms est caractérisée en droit congolais par un engouement national dans son acception et un certain ressaisissement dans son application. En ce qui concerne l'engouement dans l'application du statut des Roms en droit congolais, il y a lieu d'indiquer que cet engouement est la conséquence de la ratification du traité de Rome en 2002 et du contexte politique instable d'alors qui a eu à imposer aux législateurs congolais l'adoption d'une loi de mise en œuvre et aux juges congolais l'application des crimes internationaux désormais présents dans son arsenal juridique national. Quelques défis demeurent néanmoins ici et doivent être relevés. Le seul fait de voir les législateurs congolais donner aux juges civils, notamment celui de la Cour d'appel, la possibilité de connaître des crimes internationaux invite à la formation au niveau des universités et également à la mise en œuvre des nouvelles connaissances dans les chefs de futurs juristes. Le deuxième défi rencontre le renforcement des capacités des magistrats civils. Quand on lit la jurisprudence congolaise, les magistrats militaires semblent, c'est-à-dire ont déjà cette expertise que les magistrats civils n'ont pas encore. Alors, l'intervention du juge civil nécessite le renforcement de sa capacité.
Le juge Mindoua vante des progrès substantiels en termes des résultats des activités de la Cour, mais il note aussi certaines limites, comme les difficultés dans la délivrance des visas pour faciliter le transport des témoins par des ambassades.
La lutte contre l'impunité a également progressé en matière de développement substantiel. Les exemples sont innombrables. Par exemple, un, en matière d'agression. Rappelons que lors de son adoption, le statut de Rome définissait seulement 3 crimes. En 2010, les efforts conjugués de la Cour et des États parties ont permis l'adoption à Kampala de l'amendement relatif aux crimes d'agression. Depuis le 17 juillet 2018, la Cour est compétente pour juger des crimes d'agression. Point 2. La place des victimes. La CPI est la première cour internationale permettant la représentation des victimes et leur octroyant une réparation. Au fil des années, la Cour, par le biais de sa jurisprudence et d'un bureau de représentation des victimes, très actif, la Cour a su développer des mécanismes de participation permettant à un grand nombre de victimes de faire entendre leur voix au procès. Ainsi, à titre d'exemple, environ 350 victimes ont pu participer au procès contre Germain Katanga et désormais, c'est plus de 4000 victimes qui participent par le biais de leurs représentants à la procédure contre Dominique Ongwen de l'armée de résistance du Seigneur. Les développements jurisprudentiels, qu'il s'agisse par exemple de modes de responsabilité, de la définition de certains crimes, par exemple l'utilisation d'enfants soldats, de la définition de certaines procédures, par exemple les plaidés coupables dans l'affaire Al-Mahdi qui avait détruit le monument religieux et culturel à Tombouctou, qu'il s'agisse de la production jurisprudentielle des chambres de la Cour, la production a été énorme. Elle est contenue aujourd'hui dans une base de données informatisées que peuvent consulter les praticiens et les chercheurs. C'est une avancée parce que quand je suis arrivé à la Cour, il n'y avait pas de base de données informatiques. La réduction de la durée des procédures. Alors, la longueur de nos procédures a souvent été critiquée. Alors, si le procès était trop long à l'origine, aujourd'hui, leur durée a sensiblement diminué grâce à l'adoption de nouvelles règles des procédures telles que présentées dans des nouveaux manuels rédigés par les juges de la Cour. Parce que les statuts nous donnent quand même un certain pouvoir de rédiger des règles pour améliorer les procédures. Cependant, il faut préciser que la durée des procédures qui semble excessive est due aux circonstances particulières des procès internationaux, à savoir de crimes de masse complexes et impliquant parfois plusieurs accusés et des milliers de victimes. Il ne s'agit pas de vol de motocyclette avec un accusé et une pièce à conviction. L'un des défis récents que nous avons vu apparaître, à savoir l'octroi diligent de réparation aux victimes en cas de condamnation. En effet, la première condamnation a eu lieu en 2012 et elle n'est devenue finale qu'en 2014. C'est l'affaire Lubanga. Ce n'est qu'alors que les chambres de la Cour ont commencé à se pencher sérieusement sur la question des réparations à accorder aux victimes. Rappelons que trois affaires en sont à ce stade, les affaires Lubanga, Katanga et Al-Mahdi. On a pu observer dans les trois affaires que la difficulté d'accès au terrain et aux victimes, la difficulté à obtenir des renseignements précis permettant par exemple de quantifier les préjudices. Par exemple, dans l'affaire d'Al-Mahdi à Tombouctou, les familles qui gardaient le mausolée qui ont été détruits, combien doit-on payer aux familles? Combien doit-on payer aux habitants de Tombouctou? Et combien on doit me payer, moi? Parce que moi aussi, je suis un habitant du monde, et quand les mausolées à Tombouctou sont détruits, ça détruit la mémoire de l'humanité, l'héritage culturel. Donc, il y a des problèmes au sujet de l'évaluation de tout ça. Alors, c'est une nouvelle matière, et les juges sont en train de travailler pour essayer de fixer des règles précises à ce sujet. Et quand le condamné est indigent, comment faire pour offrir réparation aux victimes? Des développements considérables sont à attendre dans ce domaine dans les prochaines années. Alors, les différentes procédures administratives et logistiques pour faire déplacer les témoins et les avocats de leur lieu de résidence jusqu'à la haie. Nous avons des diplomates avec nous et nous savons quelles sont les difficultés pour obtenir des visas et des passeports pour faire voyager les avocats et les témoins.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies. Chaque dimanche à 10h05, 19h05, rediffusion mercredi à 15h30.
Vous suivez le magazine Droit et Citoyenneté qui se penche sur les 20 ans du statut des Roms, bilan et perspectives. Nous recevons Patrick Tshibouyi, chargé de sensibilisation à l'unité de la CPI en RDC.
Radio Okapi.
Droit
et Citoyenneté.
La réparation des victimes en termes d'évaluation, le coût, ça pose toujours un problème, surtout quand il s'agit de prévenir indigents. Est-ce que les victimes sont-elles des oubliées de la CPI? Est-ce qu'elles accèdent facilement à cette réparation?
Non, les victimes ne sont pas les oubliées. Et le juge, dans son discours, a tenu à le rappeler, en faisant même une distinction de la place que réserve le statut de Rome aux victimes par rapport à la place que réserve le statut des tribunaux ad hoc aux victimes. Il faut le rappeler que le juge, avant d'exercer la Cour pénale internationale, a exercé également dans les tribunaux ad hoc. Donc, il a également l'expérience des tribunaux ad hoc. Il a relevé justement cette expérience en faisant remarquer que le statut de Rome, à la différence des statuts des tribunaux ad hoc, accorde une place importante aux victimes, une place considérable aux victimes. Et il a également relevé que notamment la question de la réparation occupe une place fondamentale dans le système du statut de Rome, à la différence des autres tribunaux qui ne l'avaient pas prévu, qui n'avaient pas de budget pour ça. Et même pour remontrer la place qu'occupent les victimes, le juge a voulu rappeler qu'il existe dans le système de la Cour, ce qu'on appelle le fonds profit des victimes, qui est donc une institution qui a été créée par les États partis, qui a un double mandat, un mandat d'assistance et un mandat de réparation. Et dans le cadre du mandat de réparation, justement, lorsque l'accusé est indigent, là, on a la possibilité de pouvoir, pour les victimes, obtenir des réparations par le biais du fonds profit des victimes. Et le juge a également eu à rappeler que dans le cas notamment de Thomas Lubanga, de Germain Katanga, où nous sommes dans des phases de réparation, le fonds profit des victimes est en train de mettre en œuvre les réparations en République démocratique du Congo et que petit à petit, de manière progressive, les victimes en RDC sont en train de vivre la réalité des réparations. C'est un processus qui est enclenché, qui a des défis que le juge a voulu relever dans son discours, qui a des défis, mais le juge a insisté pour véritablement faire ressortir cette place importante que le statut de Rome prévoit pour les victimes.
Parlons maintenant de l'indépendance de la Cour face à toutes ces pesanteurs. Antoine Mindoua évoque un autre défi à relever, le contexte hautement politisé dans lequel évolue la CPI, en dépit duquel elle doit préserver son indépendance, sa neutralité.
La CPI dispose de juges intègres, impartiaux et indépendants. Ils sont élus par l'Assemblée des États-partis conformément à l'article 36 du statut. Ils prêtent serment de ne faire rien d'autre que du droit et jamais de la politique. Ils sont traités de façon à préserver leur neutralité. Ainsi, par exemple, ils sont élus pour un mandat de 9 ans non renouvelable, ce qui est très bien, parce qu'ils sont à l'abri de toute propagande électorale pour le futur. Et ils ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité, à part les statuts de Rome et les autres sources pertinentes du droit. Alors, je peux vous affirmer que jamais je n'ai reçu de pression politique sérieuse de qui que ce soit depuis 2015 que je suis à la CPI ou pendant les 10 ans que j'ai exercé comme juge au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Je pense que les différents responsables dans le monde entier respectent l'indépendance des juges internationaux. Ce statut aussi présente un caractère ambivalent. D'un côté, le statut est le produit d'un traité et qui, à ce titre, obéit à la disposition de la Convention de Vienne sur le traité qui dit que le traité ne produit ses effets qu'envers les parties et non à l'égard des tiers. Seuls les États parties sont donc concernés en principe. Mais en même temps, le statut de Rome accepte que même les États tiers soient impliqués dans des activités de la Cour par l'entremise du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ainsi, les États-Unis, la Chine et la Russie, malgré leur non-adhésion à la Cour, ils ont un mot à dire dans la vie de celle-ci. En réalité, cette situation déstabilise le public. Les injonctions politiques et les problèmes de coopération avec les États. La Cour évolue dans un contexte hautement politisé, je vous l'ai dit. Elle doit ainsi trouver un équilibre fort délicat entre l'indépendance et l'impartialité de la justice d'un côté et les considérations politiques complexes de l'autre. Alors notre défi est de dire le droit dans un environnement hautement politisé. Je peux vous assurer que les juges de la CPI se font un point d'honneur à rester neutres et professionnels, sans quoi c'est l'effondrement de la CPI et de toute cette merveilleuse idée de la justice criminelle internationale.
Radio Okapi.
Antoine Mindoua évoque un autre défi à relever, le contexte hautement politisé en dépit duquel la CPI doit préserver son indépendance. Patrick, cette indépendance, comment on peut la préserver face à tous ces États qui lui-même dit qu'ils ont un mot à dire dans les activités de la CPI?
Non, je crois que ce qu'il faut comprendre dans le discours du juge concernant justement cet aspect, c'est de dire oui, il y a l'environnement international qui est un environnement politisé dans la mesure où les États ne cherchent pour suivre que leurs intérêts, ça c'est d'une part, mais d'autre part, vous avez l'institution judiciaire qui est complètement focalisée sur un mandat strictement judiciaire, et dans son mandat judiciaire, cette institution a l'obligation de ne dire que le droit, notamment obligation qui pèse sur les juges que de ne dire que le droit. Et le juge Mindoua l'a rappelé dans son discours. Vous savez que même les juridictions nationales sont également dans des environnements qui sont environnements hautement politisés, mais les juges nationaux ou les autorités judiciaires dans tous les États ont l'obligation de respecter cette séparation de pouvoir qui est consacrée dans plusieurs constitutions entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc c'est un peu la même transposition qu'on peut avoir en droit international. Vous avez une communauté internationale qui est représentée par plusieurs États, dans plusieurs systèmes dans lesquels ces États ne cherchent que leurs intérêts, c'est vrai. Mais vous avez également, d'un autre côté, une institution qui est en dehors de la sphère politique, qui est en dehors des motivations politiques, qui n'est guidée, comme l'a dit le juge dans son discours, que par les prescrits du statut de Rome et dont les juges ont l'obligation que de dire le droit.
Parmi les magistrats invités à la conférence de haut niveau organisée par la CPI, un magistrat congolais de la Cour de cassation, Jean-Marie Massoudi Mpia, donne son point de vue sur le travail de la CPI.
Bon, vous savez, 20 ans, quand ça se célèbre, c'est qu'il y a quelque chose de bon. On ne célèbre pas un malheur, mais on célèbre un événement heureux. Mais imaginez-vous un peu, monsieur le journaliste, que nous soyons assurés qu'il n'y aura plus plus de crimes impunis dans l'humanité. Mais le monde changera, croyez-moi. Au fait, l'idée de la CPI, ça me pousse un peu à imaginer la théorie de Karl Marx, qui a enseigné le socialisme, qui a dit que l'humanité pourra évoluer jusqu'à vers le communisme. Imaginez-vous un peu avec le communisme. Puis l'abolition de la propriété privée. Plus de cupidité, plus d'ambitions exagérées de la part des uns et des autres. Et de la même manière, sur le plan judiciaire, sur le plan social, lorsque vous êtes assuré que tout crime sera sanctionné, eh bien, il y a beaucoup d'élans criminels qui seront évités. Et il a souligné, affirmé les principes de l'indépendance des juges de la Cour pénale internationale. Et il a même avoué devant vous que de son expérience en tant que juge de la CPI, il ne reconnaît pas une seule fois avoir subi des pressions politiques quelconques. Et il a même rendu hommage aux personnalités du monde qui ont un grand respect pour la justice.
Radio Okapi.
Droit
et citoyenneté.
Vous suivez le magazine Droit et citoyenneté qui se penche sur les 20 ans du statut des Roms, bilan et perspective. Revenons-en à présent au bilan de la coopération entre la CPI et la RDC pendant 20 ans. Le professeur Luzolo Bambi, point focal de la CPI en RDC, nous en explique l'expérience.
S'agissant de la coopération quant à la lutte contre l'impunité, il faut relever que pour lutter contre l'impunité des crimes graves de la compétence de la Cour pénale internationale perpétrés dans notre pays et considérant à l'époque l'incapacité contextuelle des juridictions nationales de juguler l'impunité de ces crimes sur notre territoire, le président de la République avait en 2004 renvoyé l'ensemble de la situation de la République démocratique du Congo à la Cour pénale internationale conformément aux prescrits du statut de Rome, invitant ainsi celle-ci à enquêter sur les allégations de tels crimes et violations commis dans notre pays. Ainsi, le bureau du procureur avait ouvert des enquêtes pour les crimes commis en Ituri et au Sud Kivu. Ces enquêtes ont conduit à l'ouverture de 5 affaires concernant respectivement M. Thomas Lubanga, Germain Katanga, Mathieu Ngunjolo, Bosco Ntaganda et Mbarushimana. Effectivement, notre coopération a permis l'arrestation et la remise de 3 de ces précités à la Cour pénale internationale, notamment la remise de M. Thomas Lubanga, la remise de M. Mathieu Ngunjolo et la remise de M. Germain Katanga.
Patrick Tshibouyi, comment appréciez-vous cette coopération et complémentarité?
Ce qu'il faut d'abord rappeler, c'est que la coopération est une obligation qui est imposée aux États parties par le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Les États parties ont l'obligation de coopérer avec la Cour pénale internationale. Ça, c'est un élément fondamental. Donc, cette coopération a pour source, sous bassement juridique, une obligation qui est imposée par le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Ce qu'il faut relever pour ce qui est de la situation en RDC, si vous prenez les faits dans cette situation, vous allez vous rappeler que Thomas Lubanga, qui avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt, ce mandat d'arrêt a été exécuté par les autorités congolaises et il a été remis à la Cour pénale internationale. C'est le cas de Mathieu Ngunjolo, c'est le cas de Germain Katanga. Il faut aussi rappeler que les premières exécutions des peines d'emprisonnement ont été faites en RDC. Deux condamnés, Thomas Lubanga et Germain Katanga, ont eu à purger leur peine, pour le cas de Germain Katanga qui a fini de purger sa peine par rapport à la Cour pénale internationale, pour le cas de Thomas Lubanga qui continue à purger sa peine. Ça a été fait en RDC. Et l'exécution de cette peine n'est possible que si l'État accepte de recevoir les détenus sur son territoire. Donc ce sont ces éléments qui sont à la portée de main, qui a même fait dit permis au juge dans ce discours de relever le bon état de coopération dont a fait montre la RDC par rapport à la Cour pénale internationale.
Droit
et citoyenneté.
Nous allons enfin conclure cette émission avec le juge Antoine Mundoua qui plaide pour poursuivre la lutte contre l'impunité en soutenant la CPI dans ses efforts.
Quoi qu'il en soit, à l'occasion de la célébration de 20 ans du statut de Rome, nous voulons affirmer que la Cour existe réellement et qu'elle doit continuer à exister pour le bien de l'humanité. Pour cela, elle a besoin du soutien des États, aussi bien que de celui de la société civile et du public.
Ainsi s'achève ce magazine Droit et citoyenneté d'aujourd'hui qui s'est intéressé aux 20 ans du statut de Rome, bilan et perspective. Merci de nous avoir suivis et de rester toujours branchés sous la fréquence de la paix.